Lors de l'ultime CE à Sony Pontanx, les salariés retiennent depuis 17 heures M. Fouché, directeur de Sony France, pour obtenir des avancées significatives sur le PSE. Voilà, merci beaucoup Daniel, à bientôt.
Solidarité continentale, solidarité continentale, solidarité continentale.
Je téléphone suite à l'émission aujourd'hui sur l'auto-entrepreneur. Je tiens à vous remercier parce que vous m'avez énormément informé et donc je vais revoir mes positions par rapport à ce que je décide de faire. Merci beaucoup et bon courage, bonne continuation. Au revoir.
Salut Mermet, c'est Pascal, chef d'entreprise à l'appareil. Je suis d'accord avec toi partiellement sur ta présentation de l'entreprise. Il y a une part d'intérêt commun avec les salariés. Tu ne peux pas être chef d'entreprise si tu n'as pas des intérêts communs avec eux. Tu as le métier, tu as la possibilité de faire de l'argent au moins pour payer les salaires. Après, je suis d'accord avec toi, il y a un aspect lutte des classes, je crois qu'il faut le dire. Donc des intérêts contradictoires dans la répartition des profits, de la marge, etc. Alors c'est vrai, ton analyse est juste. Il y a des syndicats, il y a une organisation, et au-delà des intérêts contradictoires, il y a des compromis, des accords. C'est ce qu'on appelle le dialogue social. Alors maintenant, tout ça s'est remis en cause, et là tu as tout à fait raison, dans le cadre de la mondialisation. Philippe Seguin disait à juste titre, quand on importe des produits de l'étranger, on importe un mode de vie. Alors le statut de l'auto-entrepreneur, il faudrait que tu regardes avec tes grands penseurs parce que tu es toujours très bien entouré. Le statut de l'auto-entrepreneur, je me demande si ce n'est pas un modèle importé qui effectivement va au-delà de l'aspect contradictoire des relations qui existent dans l'entreprise. Chers amis d'AMG, bonsoir à tous, bonjour à tous, à bientôt.
Bonjour, c'est Marie Audet, j'appelle de Plymouth en Angleterre, je viens d'écouter l'émission de Daniel Mermet. Je voulais dire que les auto-entrepreneurs, ça existe en Angleterre, ça s'appelle self-employed, qu'on peut traduire par employé par soi-même, ou pourquoi pas auto-entrepreneur, ou libéral. Et beaucoup de mes collègues dans une société où je travaillais précédemment, j'ai découvert après coup qu'elles étaient self-employed, donc pas de vacances payées, pas de maladie payée, pas de représentation syndicale, absolument aucun droit, pas de retraite, pas de chômage si arrêtaient de travailler. C'était en général des gens qui étaient employés pour quelques heures par semaine ou à mi-temps dans le meilleur des cas et qui avaient un autre job ou d'autres endroits où ils travaillaient aussi quelques heures par semaine. Quand j'ai découvert ça, j'étais absolument atterrée. Et je suis aussi atterrée de voir que ce sont des choses qui arrivent en France et qui vont se développer apparemment en France. Voilà, ben c'est pas terrible. Et merci à Daniel pour ces émissions qui ouvrent les yeux des gens. Et j'espère que les gens qui, les 67 000 qui se sont précipités sur ce truc-là, réfléchiront peut-être. Pareil.
Oui, bonjour. J'ai beaucoup apprécié l'émission d'aujourd'hui sur l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur. Et je voulais vous dire que j'étais, moi, dans une coopérative d'emploi et d'activité qui était exactement l'inverse de ce statut d'auto-entrepreneur, puisque on a le droit au chômage, on a le droit au congé maternité, on a le droit à tous les avantages, en fait, du salarié, sauf qu'on exerce son activité en toute indépendance. Donc, c'est ce qu'on appelle les coopératives d'activité et d'emploi. C'est de l'économie solidaire. Ça existe dans toute la France. C'est des SCOP. Et je pense que c'est un message à faire passer que ça existe. Plutôt que de foncer dans ce statut d'auto-entrepreneur qui m'a l'air d'être vraiment un piège, renseignez-vous sur les coopératives d'activité et d'emploi qui vous permettent de faire la même chose dans un cadre hyper sécurisé et très humain. Au revoir.
Oui, bonjour, le répondeur de là-bas. Bien, c'est Jean-François de Maïsé, un petit village au fin fond du Marais Poitevin. Bon, j'ai pas pu écouter l'émission d'hier, hein, puisque j'étais justement en rendez-vous avec un responsable du RSI sur le statut d'auto-entrepreneur, auquel je pensais adhérer. Hein. Alors, ben, de l'entretien, il s'avère que c'est pas du tout ce que je pensais. Hein. C'est un statut un peu bizarre, ça vient de sortir, c'est nouveau. Et il est intéressant, on va dire, que pour les salariés qui font des petits boulots hein, et qui espèrent échapper aux embêtements du travail non déclaré. Bon, sinon pour les travailleurs indépendants que je suis, hein, contrairement à ce qu'on pense, ce statut ne couvre pas les indemnités journalières en cas de besoin hein, pour les longues maladies. Les trimestres pour les retraites ne seront pas validés non plus. Enfin bref, c'est un statut à éviter à tout prix. Hein. Enfin, d'après la personne responsable du RSI, il n'y a pas de texte précis. Donc ça sent le piège quand même. Salut à tous et puis à bientôt. Bah, demain, tout simplement. Allez, salut.
Ouais, Bernard, je vous appelle du Nord, je suis gérant minoritaire d'une SARL. Vous êtes en train de démolir le statut de l'auto-entrepreneur, mais d'après vous, le statut de gérant minoritaire dans une SARL, il est quoi? On n'a pas droit aux assédiques, on n'a pas droit aux maladies, on n'a pas droit au chômage, on n'a pas non plus tous les droits que vous êtes en train de, comment dire, tous les droits dont vous êtes en train de parler concernant le statut d'entrepreneur. Donc finalement, quelle est la différence entre eux et nous? Alors que nous, on essaye effectivement de faire marcher des boutiques, de recruter du personnel, de créer des richesses. Si ce type de statut peut permettre le démarrage d'une activité et que la personne qui s'installe comme auto-entrepreneur derrière crée éventuellement une autre société en ayant acquis l'expérience dans sa première activité, eh bien pourquoi pas.
Bon, et bien justement, on va s'occuper des gérants aujourd'hui. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous avez envoyé comme message suite à l'émission d'hier sur le statut d'auto-entrepreneur. Enfin, ça vous a intéressé, ça vous a passionné. Et vous voyez les informations très contradictoires qui nous reviennent sur le répondeur. Je vous signale que vous pouvez réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. Et il y a beaucoup de commentaires qui nous sont arrivés hier que vous pouvez, je crois, oui, je suis sûr même, consulter sur le site de France Inter. Donc un sujet passionnant, enfin qui vous passionne, qui nous passionne, effectivement, étant donné évidemment l'évolution du monde du travail, du statut de salarié, la destruction des emplois, ben chacun essaye de trouver une combine, un statut, etc. Là, il semble effectivement, ce que disait cette auditrice, qu'il soit intéressant de se pencher sur ce système de coopérative d'activité ou coopérative d'activité et d'emploi. Qui est une coopérative d'entrepreneurs qui est née en 1995 à Lyon, qui a l'air d'être une forme intéressante, mais qui, comme les autres, doit avoir ses limites. Alors, je parlais de gérant en commençant. Bah, on va s'intéresser aujourd'hui à la vie des gérants de la petite distribution et notamment chez Casino, chez Petit Casino. On va aller faire un tour, on va retrouver Christophe et sa femme Cathy, et on va voir que chez le petit épicier du coin, si comme partout le client est roi, pour le gérant et la petite dame qui est derrière la caisse, c'est pas forcément le paradis, mais là on est tombé sur des de ces gens qui se laissent pas faire. Voilà, c'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, Daniel, bonjour. Bravo pour ton émission d'hier à propos de la création d'entreprises et du mouvement qui fait bouger les lignes. C'est Charles Baudelaire qui disait, qui écrivait, je hais le mouvement qui fait bouger les lignes dans les fleurs du mal, dans la beauté. C'est le même Charles Baudelaire qui, dans ses écrits de Belgique, disait, écrivait encore, le progrès, la croyance aveugle au progrès, c'est le paganisme des imbéciles. Voilà, le paganisme des imbéciles, ça aurait pu être le titre de ton émission. Ouais, c'est Christophe à Charleville qui a créé son entreprise il y a 15 ans parce que plus personne voulait l'employer.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, aux AMG d'ici et d'ailleurs. Le capitalisme craque de partout, le temps est à la fronde, le printemps arrive. Plein de bonnes raisons pour venir au troisième rendez-vous du repère au bar Regain à l'Alleux en Ille-et-Vilaine. Le dimanche 15 mars à 15h, Jean-Yves et Madeleine vous attendent pour refaire le monde, le démonter ou le remonter, le repeindre. Tous les métiers sont les bienvenus. Alors, à dimanche.
Bonjour, la coordination des Alpes-Maritimes pour le droit au logement pour tous, c'est le collectif SOS Tourache. appelle à un rassemblement de soutien demain à 14h30 aux HLM de la Tourache à Grasse. 83 logements sont vacants, alors que dans les Alpes-Maritimes, 1200 familles sont sous procédure d'expulsion. Donc venez vous informer, dialoguer et construire ensemble, y compris en ouvrant les portes de ces logements. Renseignez-vous sur le site de SOS Tourache. Voilà.
Bonjour à tous, c'est Amandine de Haute-Vienne. Un petit message pour les AMG de Limoges et des environs. Donc c'est pour dire qu'en plus du premier repère qui se tient le premier mercredi de chaque mois au Woodstock Boogie Bar à 18h30, on a décidé, pour se voir un peu plus souvent, de faire un second repère qui se tiendra le troisième lundi de chaque mois au bar Le Gousset, 41 rue des Combes, du côté de la préfecture. Donc le troisième lundi du mois de mars, ben, c'est lundi prochain, le 16. Donc premier rendez-vous au Gousset le 16 à 18h30, en espérant qu'il y aura du monde. Merci à toute l'équipe de l'émission pour ces émissions. Au revoir et à bientôt.
Bonjour. Depuis mardi 11h, les salariés de l'usine Slickma, matériel d'ascenseur faisant partie du groupe Rouget, sont en grève totale pour la revalorisation de leur pouvoir d'achat dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Ils demandent une augmentation de salaire, d'autant que l'entreprise a réalisé des bénéfices en 2008 et que les objectifs de janvier et février sont atteints. La direction refuse catégoriquement toute évolution salariale à cause du contexte économique. Par contre, en réponse au mécontentement des 48 grévistes s'exprimant facilement, elle fait déplacer deux voitures et un fourgon de la gendarmerie de Brignais. C'est du jamais vu en 28 ans de paix sociale et de tout mouvement de revendication. La grève se poursuit demain 13 mars et les salariés se prononceront en début d'après-midi sur la continuité du mouvement. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.
Votre émission aujourd'hui m'a super motivé pour devenir micro-entrepreneur dans le domaine de la chanson française et surtout des reprises des anciens chanteurs de gauche. Voilà. Il faut fonder votre entreprise car les patrons n'embauchent plus. C'est pas leur faute si c'est la crise. Les CDI ont disparu. Moins de cotisations sociales, ça paraît une bonne idée. Mais tu te retrouves vite à poil si ton affaire a capoté. L'autre entreprise est tendance. Chacun se lance et risque tout. C'est ça l'avenir de la France. Tous des winners, tous des casse-cou. C'est la fin du droit du travail et c'est la fin des syndicats. Si t'es malade, crève canaille parce que des droits, ben t'en as pas. C'est ça le futur hexagone. Prendre des risques, c'est trop bandant. Dans les rêves de Sarko, le gnome, il y aurait 60 millions de concurrents. Allez, salut, bonne journée.
Solidarité continentale. Solidarité continentale. Solidarité continentale.
C'est un beau métier, hein. J'en peux plus et...
Il y a quelqu'un qui attend à la caisse. Hein.
Mademoiselle.
Mais moi j'ai pas le choix.
Ça va ?
Ouais. Caféine, vitamine, tous les jours. Parce que sinon je peux pas tenir le choc.
C'est inimaginable. Inimaginable. Il faut imaginer ce qu'est le concret de ces gens-là. Ça n'est pas acceptable.
Et ma femme, elle prend, elle, des anxiolytiques. C'est du Xanax, c'est pas énorme, mais...
Monsieur.
Ouais, pareil, ouais.
Salut, monsieur. Comment ça va?
On est livré à nous-mêmes, et puis il faut se démerder par nos propres moyens. J'appellerais ça le salaire de la peur, moi.
Le SMIC de la peur.
Ouais, ouais, le SMIC de la peur, ouais, c'est vrai.
Alors, pourquoi les gens acceptent ça?
Salut, c'est Daniel Mermet, la base, j'y suis avec François Ruffin, Casino, le SMIC de la peur.
Flight number 2, arriving from...
Il est 6h, Arras s'éveille, enfin s'éveille à peine. Il y a un camion qui attend, qui a mis ses warnings devant le magasin Spar. Il a descendu son transpal. Et la lumière aussi. Au pain Hélios, dans une boulangerie, sur la Grand Place.
Oui, Christophe Léger ? Oui, c'est François Ruffin. C'est pour vous dire que je suis devant le magasin Spar, en fait. Ouais, y a un camion garé devant chez vous avec ses warnings. Ouais. Ok, bah, tout de suite.
Bonjour.
Oui, salut.
Ça va ?
Comment ça va ?
Ça va, toi ?
Il y a longtemps que t'attends ?
Oh, bah bon, c'est une coupure à manger.
Ouais.
Enfin, sans le vouloir.
Mais t'arrives à quelle heure ? Il y a combien de temps ?
Oh, il y a un petit quart d'heure.
Non. Mais t'as pas mon téléphone, si ? T'as mon téléphone.
Ouais, c'est tac.
Ça va, j'ai pas trop de chariot, là.
Non, le 7.
7 ?
Ouais.
7 quand même. Bon, on va y aller, Joe Pépère.
Ouais, bah ouais.
Je vais ouvrir.
On doit.
Non mais vous voyez la galère, parce que vous allez voir les chariots, ce qu'ils appellent les Rolls. Il y en a, ils pèsent 400 kilos, quoi. Il y a des marches, il faut que j'aille sortir un rail. À 6h du matin, vous êtes calmés, quoi. La journée, elle commence fort, quoi.
On ouvre le camion pour décharger.
Vous avez toujours fait chauffeur, vous ?
Non. Non, j'étais magasiné cariste, agent de sécurité, de magasin, tout ça. Bon voilà, bon, on est bien content de travailler, on a du travail, c'est vrai. Moi je reviens de Perpignan parce que là-bas il n'y avait rien.
Vous étiez parti faire quoi à Perpignan?
J'avais envie de changer de région.
Pour voir le soleil.
Le soleil, non, puis avoir du travail. Moi j'étais certain de pouvoir trouver du travail en tant qu'agent de sécurité, magasiné cariste, mais il n'y avait rien. Et moi auparavant je travaillais à DSM Food, à Seclin. C'est une boîte chimique, tout ça, moi ça. Enfin, je sais pas si c'est fermé ici. Là-bas, je suis remonté parce qu'il n'y avait pas de travail, en fait. Hein. J'ai passé les permis, après, il fallait l'expérience, tout ça. Ça a été dur. Puis pour revenir, c'était pareil, regalère. Il n'y a pas de travail, là-bas. C'est saisonnier, alors vous pouvez pas rester comme ça au chômage. C'est pas facile, mais on travaille, on va pas se plaindre.
Et ça vous dirait pas de reprendre un magasin, alors ?
Oh non. J'ai failli, mais non, ça m'intéresse. Non, franchement, parler pour le casino, non. Je vois comment ils travaillent, c'est pas la peine. Tout le monde se plaint. Et en ce moment, le casino, ils sont en procès, on est bien d'accord avec vous. Ils sont en procès un petit peu avec tout ce monde, alors. Non, ça me tire pas. Pas du tout. Je préfère qu'on reste les chauffeurs.
On y va, on attaque.
Ouais, faut
j'attendre. Allez, en route.
Donc là, on tire un chariot de bouteilles d'eau minérale et de Fanta.
Attention.
J'arrive. Le chariot était parti de travers avec une roulette à côté du rail.
C'est des réveils difficiles. Hein. Wow. On est bon.
Qu'est-ce qu'ils racontent les autres gérants quand vous passez chez eux comme ça? Qu'est-ce qu'ils... Il y a la même affiche?
Non, il n'y a peut-être pas la même affiche, mais c'est le même problème.
Parce que là devant la porte de chez Christophe, j'ai vu il y a une affiche pour dire qu'on impose des horaires qui sont trop élevés.
Et ils se plaignent. Mais bon, maintenant, avec le travail qu'on ne trouve pas, les gens sont bien obligés de... Il faut vivre, après. Hein. L'époque qu'on vit, hein, on ne peut plus... T'es pas content, bah, la porte est là. Hein. Et chauffeur, ça va.
Bon, merci. Bonne journée.
À la prochaine.
Voilà, c'est comme ça que la journée commence dans ce... dans cette supérette à Arras. Et c'est Christophe qui nous a appelé un beau jour, Christophe Léger, pour dire ça va plus, on n'en peut plus, c'est plus possible, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls parmi les gérants de supérettes petits casinos. Ils se sont réveillés, ces gérants des supérettes petits casinos, et ils protestent et ils sont pas contents sur leurs conditions de travail, plus de 70 heures hebdomadaires pour des revenus inférieurs au SMIC. Alors, il va nous expliquer tout ça, on va essayer de comprendre tout ça. Ils sont dans leur magasin, un Spar de 300 mètres carrés au plein centre-ville d'Arras, donc dans le Pas-de-Calais, comme je l'indiquais. Ils sont atterris là, ces deux-là, ce couple, Christophe et Cathy, après bien des aventures. Christophe a fait de la radio libre, il a été instituteur pendant une dizaine d'années, il a fait de la photo, il a travaillé dans une maison d'édition de photos, enfin plein de choses comme ça. Et puis un beau jour, ils se sont dit, tiens, ce serait peut-être pas mal quand même, voilà, de se poser quelque part, à Arras, c'est bien. Et puis on aurait notre boutique, on aurait notre commerce, et puis on serait tous les deux. Et ça, c'était il y a 3 ans.
Casino, casino. Sourire suivant.
Bon, je vais regarder, madame. Les rissolés, là, attendez, je vais regarder.
Excellent. Combien je vous dois ?
Alors, vous me devez 3,99, s'il vous plaît.
Ah, bon, bah alors, je sais que vous n'avez pas jamais nous au nez. Je m'en vais.
Là, vous êtes vraiment gentil, vous, hein.
Ah, bah, je vous connais, hein, à force. Quand j'arrive ici, vous me dites, j'ai pas beaucoup de monnaie. Voilà.
Merci, madame. Eh ben voilà, un centime. Eh ben voilà.
Allez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir, madame. Bonne journée.
Donc, j'ai fait une formation sur les conseils de la NPE pour devenir visiteur médical. J'ai eu le diplôme. Et là, quand j'ai rencontré les recruteurs des labos pharmaceutiques, ils m'ont dit, vous êtes surdimensionné et vous êtes trop vieux. J'avais, à l'époque, 45 ans. Donc là, dur. Dur, je me suis retrouvé limite SDF, quoi. Et je m'en suis sorti grâce à un copain qui a un cabinet de consultant et qui m'a confié des missions de consultant, quoi. Donc j'ai rebondi comme ça, mais bon, tout ça c'était aléatoire et pas forcément pérenne. Donc avec ma femme, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas du commerce de proximité ? Ça nous correspond bien. Ma femme, elle a toujours bossé dans le commerce. Bon, moi, je suis plutôt sociable, donc... Et puis un jour, quelqu'un nous a dit, mais pourquoi vous n'allez pas voir chez Casino, ils sont en train de développer leur branche commerce de proximité, ça peut peut-être être intéressant pour vous. Donc voilà, on a été recrutés, sauf qu'on a déchanté.
Alors, 9,49. On a eu l'idée ensemble. On a envoyé un dossier de candidature, on a eu 2 entretiens. Ensuite, nous avons fait un stage à Pontoise de 15 jours. Bah, ensuite, on est arrivé ici.
Alors ici, quand vous êtes arrivé ici, c'est un grand magasin quand même.
Super, on était contents.
Et tout de suite, on s'est dit, on va rendre ce magasin attractif. Installer des produits régionaux, reconquérir une clientèle qui avait quitté le magasin. Mais ça a marché. On est victime de notre succès, c'est-à-dire que comme le magasin marche bien, bah, c'est toujours plus de clients. Il faut être en caisse souvent à deux caisses. Plus de commandes, plus de livraisons, plus de mise en rayon, plus de nettoyage, parce que s'il y a du monde, bah, le magasin il se salit plus vite. Mais on a toujours zéro aide de la part de la société qui nous emploie.
Alors, vous êtes employé, sauf que vous êtes employé à un SMIC et demi pour le couple.
Ça correspond à un SMIC et demi, mais si on rapporte ça au nombre d'heures qu'on fait, en fait, on est payé la moitié du SMIC.
On gagne 3,80 € et quelques. Voilà.
Bonne soirée. Moi aussi, je vais finir par pouvoir me passer de vous.
Oui.
Maître Fromentin.
Oui, au premier étage, gauche.
D'accord, je vous remercie.
Bonjour.
Bonjour.
vous venez voir Maître
Bouillet-France,
hein,
c'est ça?
Ah, on va chez l'avocat, là. Oula, c'est que... Il y a plusieurs affaires. On va voir qu'il y a de nombreuses affaires entre les employés de Casino et Casino. Pourtant, hein, c'est tentant à la tête de votre magasin. Vous êtes le maître à bord et mettez en place votre propre organisation. Vous pilotez l'action commerciale, c'est formidable. Hein, et être responsable de l'approvisionnement avec l'appui et les conseils du groupe Casino. Vous développez l'activité commerciale de votre point de vente, votre sens de la gestion et du commerce de proximité. Vous assure sans apport financier une évolution de votre rémunération directement liés aux résultats commerciaux, etc. Blablabla, évidemment, c'est tentant. Gérant de petits casinos, un métier varié, avec votre conjoint, des perspectives d'évolution au sein d'un groupe professionnel. Ben oui, mais comme nous dit Christophe, on a déchanté, et voilà une explication de ces relations on va dire d'exploitation. Faut quand même pas avoir peur de certains mots par moment. Expliqué par Maître Bouillet-Fromentin, avocate.
Casino. Sourire suivant.
Maître Bouillet-Fromentin, on se trouve dans votre cabinet. On est devant une table remplie de dossiers. Ce sont les dossiers Casino, c'est...
Oui, c'en est une partie. Ça représente des quantités phénoménales de documents.
Et alors, comment ça a démarré au départ?
Eh bien, le premier dossier Casino, c'était les gérants du petit casino de Neuilly. Et un jour, j'ai été contactée par un DRH, directeur des ressources humaines d'un grand groupe international, qui était leur client et qui m'a appelé en me disant « Écoutez, j'ai discuté avec les gérants du petit casino de Neuilly et je suis effarée de ce qu'ils me racontent. C'est totalement inimaginable, même avec ma pratique professionnelle, j'ai jamais vu ça. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a eu un couple de gérants qui est venu me voir, qui m'a raconté une situation qui m'a semblé invraisemblable.
Alors qu'est-ce qui vous paraissait invraisemblable dans leur situation ?
Ah, sur la durée du temps de travail, c'est même impressionnant, parce que je ne connais pas, dans tous mes dossiers et dans les situations que j'ai eu approchées, de gérants qui travaillent moins de 65 à 70 heures par semaine, donc environ 140 heures par semaine à deux, pour une rémunération, je vous le dis de mémoire, environ 2000 euros brut par mois pour 140 heures par semaine.
1000 euros brut par mois, donc c'est moins que le SMIC, ça ?
Ah, c'est moins que le SMIC, c'est nettement moins que le SMIC.
C'est moins que le SMIC pour une durée moyenne de travail qui est...
Le double du SMIC, le double du temps de travail légal.
Vous avez calculé combien ça faisait de l'heure, en moyenne ?
Ah, écoutez, dans mes dossiers, on arrive, suivant les cas, à environ entre 2,50 euros et 3 euros de l'heure. Depuis que... le groupe Casino est propriété de financiers purs. La pression s'est accentuée sur les gérants et ce qui était un équilibre est devenu un déséquilibre dans le fonctionnement. La pression est devenue telle que des gens sont arrivés à un point de non-retour d'épuisement. Moi, je vois des gens qui ont passé 2 ans, 3 ans sans un jour de congé en travaillant 7 jours sur 7. C'est pas rare. C'est pas rare et donc vous avez des gens qui sont dans un état d'épuisement impressionnant. Et alors parfois c'est l'entourage qui vous saisit, c'est l'entourage qui vous demande d'intervenir, ou bien c'est un des conjoints qui a plus de ressort psychologique que l'autre et qui dit là la coupe est pleine, je ne peux plus.
Et alors devant les tribunaux, vous avez gain de cause, Casino oui. A gain de cause ?
Devant les tribunaux, Casino a longtemps eu gain de cause parce que les gens y allaient en ordre dispersé, sans pièces. Et maintenant que la révolte devient plus générale, que certaines organisations syndicales font leur travail, les informations circulent et on arrive à faire la preuve de ce qui se passe. La jurisprudence est en train de s'établir de façon claire, ferme et suivie. Conseil de prud'homme de Saint-Germain-en-Laye, Conseil de prud'homme de Dijon, Cour d'appel de Grenoble. Cassation, c'était notamment sur Toulouse, où le pourvoi a été déclaré irrecevable, carrément. Sur toutes ces lignes-là, Casino perd du terrain.
Casino, là, perd sur le terrain judiciaire. Il contre-attaque.
Oui, il contre-attaque et il n'est évidemment pas seul. Hein. Moi, mes dossiers sont contre la société Casino, mais des situations identiques existent car c'est un statut qui est beaucoup utilisé par la distribution. Donc, vous avez Carrefour qui a beaucoup de, qui a un réseau de proximité très important. Vous avez Nicolas qui a un réseau de proximité important. Et ces trois entreprises-là se sont associées, entre guillemets, dans une démarche de lobbying pour faire modifier le code du travail, et ce sont eux qui ont obtenu qu'entre un projet qui était tout à fait conforme à la réalité de la situation et au droit antérieur et le passage à l'Assemblée nationale, il y a une grande différence qui pose un problème. Ils ont obtenu une quasi-sortie du code du travail. Et ça, c'est très très problématique parce que la puissance de la grande distribution face à des petits gérants, chacun isolé dans leur coin, c'est dans leur magasin, c'est incomparable. Et si la loi ne protège pas ces plus faibles-là, leur sort est quand même en difficulté.
Donc finalement, Casino, après des défaites sur le terrain judiciaire, a mené une contre-offensive sur le terrain politique.
Oui, il y a eu une opportunité qui lui a permis de le mener sur le terrain politique fort discrètement. Fort discrètement, car il n'y a eu aucun débat. Aucun.
Paul ? On va essayer de s'organiser.
On va regarder, je vais te montrer les plus urgents à ranger. Mmh. Il y a le rosé ordinaire
qui
part tout le temps chez les SDF. La bière, là, il n'y en a plus en rayon. Enfin, ou en tout cas, il n'y en a plus beaucoup en rayon.
C'est parti. Je suis inscrit dans toutes les bonnes intimes sur Arras, sur Roubaix, enfin sur Lille aussi.
T'es étudiant,
ouais, je suis étudiant. Ouais. Master 2 de relations internationales. Il n'y a pas vraiment rapport avec ma formation universitaire, mais bon.
Tu veux dire entre ranger des litres de rosé,
voilà,
à 2,30€ et un master de relations internationales.
Il n'y a pas vraiment de rapport, mais bon. Et voilà. Et après, on se retrouve
à bosser au
Spar. Faut prendre ça la rigolade, quoi.
Avant, les étudiants, pour se faire du blé, ils étaient pions dans les collèges, lycées ou des trucs ça.
Bah, c'est pas faute de postuler. Hein. C'est pas faute de postuler, mais avec toutes les réductions de postes, etc. Moi, j'étais journaliste aussi à l'Observateur Arrageois, c'est un journal local ici. J'ai fait quelques missions pendant un an. Quand on est pigiste, on est rémunéré à la ligne et voilà quoi.
Être journaliste, être reporter, c'est encore moins payé que ranger du jus de pamplemousse sans plus sur pur jus.
Bah voilà, c'est ça le pire aussi. Donc.
Ça va, Paul ?
Ça va.
Ça s'appelle du système D.
Ouais, voilà.
Ma femme et moi, on gagne en gros un peu moins de 2 000 € par mois. Et comme Paul y vient régulièrement, on lui file à peu près 350-400 € par mois. On lui remplit un panier de victuailles quand il vient bosser.
C'est-à-dire que c'est de la paye au noir, là, en fait pour...
Ouais, si tu travailles au noir, ça, c'est clair. Mais moi, j'ai pas le choix. J'ai pas les moyens de salarier quelqu'un. À la mesure où la société qui m'emploie n'est pas capable de m'offrir une aide à l'embauche ou à la gestion. Et vu la charge de travail qu'il y a ici, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire appel à Paul régulièrement toutes les semaines. Parce que sinon, y a 20 chariots qui traînent dans le magasin, donc c'est pas possible. Parce que sinon, moi ce qu'on me dit quand je vais en réunion de comité d'entreprise, on me dit. Monsieur Léger a trouvé une solution en famille. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse bosser mes gosses ou mes parents. Trouver des solutions en famille.
C'est-à-dire trouver des solutions en famille, c'est trouver des solutions qui permettent de ne pas payer les gens qui travaillent, quoi.
Exactement. Exactement.
Ils ont quel âge, vos parents ?
Mes parents, ils ont 75 ans, à peu près.
Bah non, pour bientôt, ce ne sera plus l'âge de la retraite, ça. Il y a quelqu'un qui attend à la caisse. Hein. Ouais.
Mademoiselle,
bonjour.
Ça va ?
Alors, on dit, c'est sympa la petite épicerie du coin, ça fait du lien social. C'est vrai, avec des gens comme Cathy, Christophe, c'est au poil. On passe un petit moment, la vieille dame qui fait ses courses, ça discute, on sourit, on s'offre des vœux, on plaisante, etc. Enfin, on connaît tous ces petits plaisirs du commerce du coin de la rue. Et c'est ça qui a attiré Christophe et Cathy, son épouse, pour faire ce boulot. Et voilà, ils ont déchanté et ils ne sont pas les seuls. D'autres gérants, on l'a compris à travers ce que nous a dit cette avocate, en ont un peu plein le sac.
Moi aussi, je vais finir par pouvoir me passer de
vous. De toute façon, j'aime bien faire un petit tour à pied, et puis là, je viens de m'engueuler avec ma fille. C'est pour ça que j'y tiens, j'ai passé devant, j'étais boire une petite bière là, au cercle, et puis j'y tiens, je vais lui dire bonjour.
Monsieur, il était gérant en petit casino, il a démissionné et puis il est passé devant le magasin, il a vu que je mettais une affiche pour râler. Et donc il est rentré, il m'a expliqué son histoire.
Moi, mon épouse gagnait, elle travaillait dans une société de fibres synthétiques et elle gagnait 1500 euros. Moi, à Leader Price, je gagnais 2000 euros. Donc de 2000 plus 1500, ça faisait 3500. Là, on est descendu, mon épouse 600 et moi 500 euros. Donc on n'a même pas dû se serrer la ceinture, on a dû se priver de bouffer, se priver de tout. Quoi. Et casino, c'est travailler plus, on n'avait rien de plus.
Comment ça se fait que vous êtes dit ça va être mieux alors?
Ben, ils m'ont promis monts et merveilles, fête du chiffre. Donc j'ai cru un peu aux belles paroles, l'Eldoraldo qui m'avait fait comprendre. Et puis en fin de compte, bon, ben, c'était le miroir aux allumettes, quoi. C'était de l'arnaque.
C'est-à-dire que quels que soient les efforts qu'on fournisse, on est condamné au SMIC à peu près?
Absolument, ouais. Absolument, ouais. Un SMIC pour deux, ouais.
Votre magasin, il se trouvait où?
Sparmorchin. C'est dans les mines, quoi. C'est dans les mines.
Et vous avez tenu combien de temps pendant comme ça?
2 ans.
Et donc, vous en êtes sorti comment, finalement?
Ben, j'ai démissionné, tout simplement. Il y a d'autres alternatives avec Casino de pouvoir dialoguer. Quoi. Donc,
Et là, vous avez retrouvé un emploi?
Non. Non. Pour l'instant, non.
Et votre femme?
Ma femme non plus. Donc, on a tout perdu. Quoi. Sur 2 ans de temps, on a tout perdu. Les inventaires négatifs et puis des salaires de misère. Donc, on a tout perdu. On a tout perdu.
Et si vous avez aujourd'hui une voix faible, c'est parce que vous êtes marqué par cet épisode? Avant, votre voix était plus assurée que ça ou...
Bah ouais, là, si vous voulez, on devient à la limite au bout de quelques années de casino, on devient des losers, on devient fataliste, quoi, c'est tout. On y croit au départ et puis à la fin, bon, on s'aperçoit que la réalité est tout à fait autre. Hein. Ils nous promettent monts et merveilles. Puis en fin de compte, après, ben, on est totalement...
Vous avez lancé une procédure, vous?
J'ai commencé à lancer une procédure, mais c'est très long parce que, bon, c'est une solution bâtarde. On est mi-commerçant, mi-salarié, donc c'est pas facile, quoi.
Vous mettez le reste dans un sachet?
Ouais, c'est ça. On va mettre quelque chose.
Il y en a pas mal qui sont confrontés à ces situations-là, et bon... Il faut se débrouiller, on essaye de se débattre comme un djihad dans l'eau bénite pour essayer de récupérer un peu ce qui est encore à récupérer. Quoi.
C'est-à-dire que c'est une profession où vous hyper individualise, puisque vous êtes chacun dans votre coin, dans votre magasin, et en plus on vous donne une psychologie qui vous dit c'est par vous-même que vous allez vous en sortir, c'est par l'entreprise que vous allez vous en sortir. Donc à la fois, concrètement, vous êtes isolé, et dans votre tête, vous vous dites que c'est l'individu qui va s'en sortir, donc...
On est livré à nous-mêmes, et puis il faut se démerder par nos propres moyens, quoi. J'appellerais ça le salaire de la peur, moi.
Le SMIC de la peur,
là. Ouais, le SMIC de la peur, ouais, c'est vrai.
Et comment elle est impulsée, cette peur, parce que...
Ben, si vous voulez, le contexte actuel est tellement néfaste, qui fait que, bon, quand on a un petit emploi, on essaye de le conserver, mais bon, justement, Casino profite de cette situation pour... Pour presser un peu le citron, pour manipuler un peu les gens. On est devenu de la pâte à modeler.
Et puis l'intimidation, c'est quoi? C'est de dire, bah, si vous voulez gagner plus d'argent, vous n'avez qu'à ouvrir 7 jours sur 7 et non-stop.
Ça, vous l'avez, c'est un discours que vous avez entendu?
Ah, absolument, ouais. Absolument, plusieurs fois. Dans les... Ils vous incitent à le faire. Bon, c'est pas une obligation, mais ils vous incitent à le faire par, par des allées et venues de, des moniteurs, par des coups de téléphone, par, par courrier, tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui touchent le fond, quoi, c'est tout. C'est...
Vous voyez bien comment il est ému, monsieur. Il est parti, il est en souffrance, ça se voit. Je m'accroche et je me bats et... Je vous parle, mais c'est pas impossible que dans 2 ou 3 mois, je sois dans le même état que monsieur. C'est-à-dire que j'en peux plus et...
C'est déjà commencé, rien que pour le moral. C'est un combat tous les jours. Hein.
Donc vous prenez des psychotropes?
C'est... alors voilà. C'est exactement la chanson de téléphone, la bombe humaine. Papa ne dort plus sans prendre ses calmants, maman ne travaille plus sans ses excitants. C'est la bombe humaine. C'est exactement ce qu'on vit. C'est exactement ce qu'on vit. Durant 11 ans, des vitamines, caféine, vitamines tous les jours. Parce que sinon, je ne peux pas tenir le choc. Et ma femme, elle prend, elle, des anxiolytiques à faible dose. C'est du Xanax, c'est pas énorme, mais...
Comme monsieur.
Ouais, pareil, ouais. Bah, moi, dans l'histoire, j'ai tout perdu. J'ai perdu un peu, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mes 50 000 euros, j'ai perdu des années de joie de vivre, et puis j'y crois plus tellement au commerce.
C'est avec Casino que vous êtes mis à prendre des cachets, par exemple?
Absolument, ouais. Ouais. Bah ouais, il faut essayer de tenir, hein, c'est tout. Hein. Pas non plus tomber vers la dépression nerveuse, hein, parce que là, on est presque sur le coup de la dépression nerveuse.
Et vous avez pris quoi comme cachet?
Des tranquillisants, des Tranxel, des médicaments recommandés par les toubés, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, ça va, on peut plus tenir, quoi. On devient des locs.
Ah oui. Attendez une minute. On est arrivé combien? 27
85.
Moi, je suis...
Du Tranxel, des médicaments recommandés par les toubis, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, ça va.
Le rythme de la ville, c'est ça, mon vrai patron. Je suis chargé.
C'est avec Casino que vous êtes mis à prendre des cachets, par exemple?
Absolument, ouais. Ouais.
Et ma femme, elle prend, elle, des anxiolytiques.
Si par malheur au cœur de l'accélérateur, je rencontre une particule qui m'aide de sa humeur.
Il faut essayer de tenir, hein, c'est tout.
Faudrait pas que je me laisse aller. Faudrait pas que je me laisse aller.
Ouais, pareil, ouais.
Faudrait pas que je me laisse aller. Faudrait pas que je me laisse aller.
On peut plus tenir, on devient des locs.
Faudrait pas que je me laisse aller.
C'est exactement ce qu'on vit. C'est exactement ce qu'on vit.
Il y a quelqu'un qui attend à la caisse. Hein.
Ouais.
Mademoiselle.
C'est destruction psychologique, c'est des primes, tout ça, ça c'est pas facile à quantifier. Hein. Ça n'apparaît pas dans les chiffres du chômage, dans les chiffres de la précarité. C'est pas chiffrable, ça. Et on sait que l'importance et la profondeur de cette destruction de secteurs entiers de nos sociétés. Aujourd'hui, le principe est ancien, précarisé, pour mieux exploiter. Et puis, mais jusqu'où? Jusqu'où ça peut tenir? Jusqu'où ça tiendra comme ça? On ne sait pas. On n'a aucune espèce d'idée. En tout cas, cette observation, l'avocate qu'on a rencontrée l'a fait également.
Casino. Sourire suivant.
Quand j'étais donc à Arras, il y a un autre gérant qui est passé nous voir et qui a dit « Casino, fait de nous des perdants ». il y a comme une estime de soi qui s'écroule.
Ah oui.
Parce que c'est des gens qui se sont vécus sur le mode de l'entreprise. Un salarié qui est licencié, ça peut être pénible, c'est certain, même sur le plan psychologique. Mais il ne s'est pas vécu comme étant un gagnant, plein de l'esprit d'entreprise, investissant toute sa vie là-dedans. Tandis que là, c'est des gens qui se vivent finalement sur le mode libéral du petit entrepreneur et qui finalement, c'est une dévalorisation de soi. S'ils échouent, c'est à cause de Casino, mais c'est aussi parce qu'eux sont devenus des perdants, quoi.
Oui, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est tout à fait ça. Alors, pourquoi les gens acceptent ça ? Il faut comprendre que d'abord, on ne leur dit pas qu'ils vont travailler 70 heures par semaine, qu'on les fait, on leur fait faire une formation dans des magasins tests et on leur explique qu'ils vont travailler ensemble, que ça va être très très bien, qu'ils vont vivre en couple, qu'ils vont habiter au-dessus de leur magasin, qu'ils pourront s'occuper de leurs enfants, etc. etc. Et la pression qu'on fait pour qu'ils soient ouverts 7 jours sur 7, en général, elle est faite au moment où ils ont signé, où on leur dit pour commencer, ce serait bien. Et ensuite, quand ils ont commencé, on leur dit « il n'est pas question de revenir en arrière, vous vous rendez compte, le chiffre baisserait ». Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut imaginer que des gens, c'est un couple qui a le même employeur, donc voilà deux personnes qui vont se retrouver sans emploi en même temps dans un couple. Mais pire encore, le logement étant lié à l'emploi, ce sont des gens qui vont perdre à la fois deux emplois et le logement. Et ces gens-là se voient pris dans une situation complètement sans issue et ils y restent. Ils y restent jusqu'à ce qu'ils craquent. Et il faut savoir que ce sont des gens modestes, ce sont des gens très travailleurs. Tous ceux que j'ai constatés, que j'ai dans mes dossiers, travaillent énormément. Et ce sont des gens qui auraient aimé être commerçants, souvent, et qui n'ont pas eu le capital pour l'être. Donc, ils se sentent une vocation de commerçant, et ce sont des gens qui travaillent dur en se disant « il faut remonter le chiffre, il faut le faire ». Donc, ce sont des gens qui acceptent de mettre le doigt dans un engrenage au nom de la rentabilité, au nom d'un état d'esprit libéral, dans l'intérêt de l'entreprise, parce que leurs commissions sont insuffisantes et que s'ils travaillent plus, ils auront plus de commissions pour vivre, etc. etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette situation s'est exposée. Ce sont des situations d'une détresse que l'on ne peut pas imaginer.
Vous avez des visages
Oui. Moi, j'ai des gens, notamment, je pense à un gérant dont le contrat a été rompu il y a au moins 18 mois et qui est toujours en dépression extrêmement grave. Des gens subissent une telle pression, des situations financières catastrophiques, ne vivent plus, n'ont plus de vie privée. Leurs enfants sont élevés par les grands-parents, le couple se sépare, mais c'est inimaginable. Inimaginable. Il faut imaginer ce qu'est le concret de ces gens-là. Ça n'est pas acceptable.
Bonjour les gars.
Bonjour.
Oh, tu l'as su ?
De quoi ?
De tout.
Tonton, qu'est-ce qu'il a ?
13 fois suture.
Mais qu'est-ce qu'il a foutu ?
Avec une gavoli.
Une quoi ?
Avec une gavoli. Bah, je suis un voyageur quand même. Je suis comment que ça ?
Achille, tranquille.
Je te promets.
D'accord.
Je te promets.
J'ai des clients. Tranquille.
Et
d'accord.
J'ai vu mes parents, ça m'a fait du bien.
Bon, c'est bien. Qu'est-ce que tu voulais ?
Hein ? Je sais pas, je suis emmerdé.
Quoi ? Pas de sous ?
Non, j'ai pas de...
Attends, tu voulais quoi ?
Je voulais ça, gros.
Une bouteille de whisky ?
Ouais.
Et t'as pas de sous ?
Non, j'ai pas un rond. Ben non, j'ai un blême. C'est quoi ?
Je peux te faire confiance ?
Oh !
Je vais te donner une bouteille, je vais le noter.
Ouais.
Attends, je compte sur toi. Tu viens me payer.
Ah bon, c'est clair.
Tu prends le whisky,
Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux le... Je te donne le moins cher.
Moi, donne-moi le moins cher. Bah, il est là.
Ah non, il y a moins cher.
Je suis pas toujours bourré. Là, je suis bien. Ça va, j'ai vu mes parents hier. J'en ai pleuré. Les larmes, ils ont coulé du lac.
C'est clair.
Ah, faut bien rigoler, moi.
Ouais, mais fais pas de conneries quand t'as trop bu, Achille.
Je sais.
Quand il boit, c'est des chiants.
Non, mais
dans le micro, direct. J'ai l'air bonjour. Allez, bonjour. Voilà quoi.
Allez, c'est bon, Achille, j'ai des clients.
C'est bien que tu m'as fait.
Je compte sur toi. Il y a un article là, il y a des piles qui passent. Il y a une petite fraction de ça qui part au groupe Casino et qui part à son président.
C'est Jean-Charles Naouri. Jean-Charles Naouri, c'est l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy.
Donc c'était quand Pierre Bérégovoy était responsable, ministre des Affaires Sociales. C'est quand même intéressant que ça soit l'ancien directeur du cabinet socialiste d'un ministre des Affaires Sociales qui, d'abord, en 85-86, c'est lui qui avait décidé de libéraliser tous les marchés financiers, M. Naouri, et ensuite qui devient un grand financier, qui lance l'un des premiers fonds d'investissement, parce que Euris, c'est l'un des premiers fonds d'investissement, donc quasiment l'un des premiers financiers voraces. C'est l'ancien directeur de cabinet socialiste du ministre des Affaires Sociales.
Je pense que Jean-Charles Naouri, il a dû lire Le Prince de Machiavel et que il fait pas de sentiments, quoi. C'est tout. Il fait du business.
Quand il y a les piles des litres de rosé, quand il y a le litre de rosé de Ivan qui passe à la caisse, qu'on entend le bip là, ouais. Il y a une petite fraction de ce litre de rosé, une petite fraction de l'argent de Ivan, donc du SDF, du centre-ville d'Arras, qui part dans la poche de Monsieur Jean-Charles Naouri. Est-ce que vous savez combien a gagné M. Naouri l'an dernier?
Non, sincèrement, je ne sais pas.
Vous savez?
Du tout.
Une petite estimation, comme ça, on peut jouer à...
20 millions d'euros?
Plus, moi j'irais 200 millions.
Moins?
150.
Un petit peu moins. Il a gagné, sa fortune s'est accrue de 120 millions d'euros entre 2006 et 2007.
Bah nous, on va mettre 40 ans pour gagner ça.
Alors, vous savez combien... Justement, allez-y, vous avez une calculette, là. Combien de temps mettront les gérants d'une supérette Spar pour gagner ce que gagne le patron de casino en une année?
120. Je peux pas aller plus loin, la calculette est pas assez forte. Ça rentre pas dans ma calculette.
Bah c'est bon pour calculer le vin rosé à 2,30€, quoi.
Ouais, ça va, ouais. Ouais, ouais, voilà, ça sert à ça. Et puis... à calculer les 3-4 tickets des clients à qui je fais crédit en fin de mois parce qu'ils n'ont plus de thunes, qu'ils sont au RMI ou au minimum vieillesse ou au chômage et à qui j'accorde le fait de payer le 6 ou le 10 du mois, quoi. Voilà.
Divisé par... Je m'y perds.
Vous n'arrivez pas à faire le calcul? Bah dis donc, ça m'étonne pas que vous ne gagnez pas plus que ça, on va être super Ed Spar, hein.
5000 ans?
Je suis perdu. 5000 ans,
ouais. Ouais, il vous faudrait 5000 ans.
Ouais, 5000 ans?
Ouais.
Vous vous rendez pas compte, 5000 ans, c'était avant Jésus-Christ, quoi.
Bah ouais, c'était quoi, il y a 5000 ans?
C'était, Néandertal ou Cro-Magnon ou...
Ah, c'était la construction des premières pyramides et l'invention de l'écriture. Donc pour gagner ce que gagne Jean-Charles Naouri en un an, il faudrait que vous travailliez dans une supérette casino, enfin Spar, dans une supérette Spar. Depuis l'invention de l'écriture ou de la construction de la première pyramide.
Merci à tous, merci à Christophe et Cathy Léger, à Maître Fromentin, à Denis, à Antoine Ferreira et à Serge Riga. C'était une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin du 7 janvier 2008. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. Pareil, vous pouvez réécouter beaucoup plus longtemps, indéfiniment, j'espère, je crois, et faire des commentaires. Il y aura une suite à cette histoire qu'on vous racontera probablement très prochainement. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et Ronan Mahé, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission, ainsi que de Charlotte Perry et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de la base J'y suis, qui est le 01 56 40 37 37.